Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
L'éducation pourrait bien être le trésor que lègue le laboureur à ses enfants. Son prix ? L'appropriation. L'enseignement en est l'un des piliers. Mais si la culture peut faire barrage à bien des incompréhensions, elle peut aussi générer des codes qui font obstacle quelquefois au sens du vivre ensemble. Exploration de ce septième volet de libres échanges, quelle utilité de la culture classique aujourd'hui ?
Avec nous pour en parler, Blanche-Marie Gaillard, auteure de « Médecin au bagne de Nouméa » aux éditions Epistemea et de « Au front à 17 ans » aux éditions Sutton, historienne et ancienne prof d'histoire. Philippe Frétinier, auteur de « La tondue » aux éditions Vendémiaire, historien également, amateur éclairé puisque ça n'est pas de profession. Alors, pour commencer à évoquer cette question de la culture classique, il est absolument indispensable qu'on puisse peut-être, non pas la définir complètement, parce que ce serait l'émission n'y suffirait pas, mais en tout cas donner quelques jalons. Est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous dire, Blanche-Marie peut-être pour commencer, ce que pour vous revêt cette notion de culture classique ?
Oui, moi j'aimerais bien commencer par la notion de culture tout court. Cultivée dans son sens premier latin, c'est cultiver son champ, mais c'est aussi cultiver son esprit. Et en fait, la culture, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, c'est plutôt un sens anthropologique, unit un groupe social, une famille déjà au départ, un groupe social dans une aire géographique. Et à partir de là, se sont développées de nombreuses cultures. Et certaines cultures ont pris le pas sur d'autres à travers les siècles, à travers des apports différents. Disons que dans notre espace européen, eh bien, jusqu'à en tout cas à peu près la Deuxième Guerre mondiale, ce qui prévaut, c'est la culture gréco-latine et judéo-chrétienne en Europe occidentale. Donc pour moi, la culture classique, c'est ça.
Philippe Frétinier, peut-être un complément sur ce point.
Oui, pour moi, ça rejoint ce qui vient d'être dit. Pour moi, la culture classique, c'est le socle sur lequel se fondent tous nos acquis et notre héritage. Et donc évidemment, dans ce sens-là, c'est évidemment la culture grecque et la culture latine. J'aurais envie de dire plutôt d'ailleurs la culture gréco-latine. D'abord parce que beaucoup des Romains se voyaient comme les héritiers, les continuateurs des Grecs, qu'il y a de très nombreuses passerelles entre les auteurs romains, certains ont même des fois écrit en grec, entre les auteurs romains et les auteurs grecs. Filiation souvent revendiquée. Chez Cicéron, chez Sénèque, on pourrait donner bien des exemples. Et donc, c'est ce qui nous a constitué, dans un sens d'ailleurs très large, puisque c'est la formation de l'esprit occidental. Nous sommes à la fois les enfants de cette culture-là, et en même temps, nous sommes longtemps confrontés à cette culture-là. Donc, c'est cette filiation-confrontation qui a permis toute la richesse de la culture occidentale jusqu'au XVIIe.
Alors, du coup, dans un monde moderne qui change plutôt plus vite que son ombre, Le terme classique est-il un gage de qualité?
Non, aucun terme n'est un gage de quoi que ce soit. Tout dépend de l'emploi qu'on en fait. Cette notion de classique, elle est très compliquée. D'abord, le terme est très moderne, très récent. Il apparaît finalement à partir du 18e, même au 17e, on ne parle pas de culture classique, ça n'existe pas. Hein. Alors classique, ça veut dire aussi, ça sous-entend des fois par un sens large de l'acception, conformiste, figé. Alors là, j'essaierai plus tard dans l'émission de montrer que le rapport à cette culture-là, il est tout sauf figé, au contraire. Il est vivant, même si aujourd'hui on se charge de bien l'assassiner, c'est un rapport vivant. Quand on lit les auteurs grecs ou latins, parce que je vais surtout parler de ceux-là, qui me tiennent à cœur, surtout si on a la chance de pouvoir les lire dans le texte, c'est un dialogue permanent.
Alors, un dialogue permanent. Et en même temps, est-ce qu'on peut... Il y a certainement eu beaucoup de moments dans l'histoire où on a pu en parler, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui évoquer quelque chose comme la querelle des anciens et des modernes? Blanche-Marie, peut-être.
Alors, aujourd'hui, disons que la querelle des anciens et des modernes, déjà, c'est assez ancien, mais oui. Disons pour aujourd'hui. Hein. Effectivement, la culture classique, c'est la culture à laquelle aussi on peut se confronter. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, mais c'est aussi la culture qui nous permet d'avoir des outils, justement, de confrontation. Et actuellement, dans les nouvelles approches, les arts nouveaux, etc., eh bien, est-ce qu'on va parler de querelles d'anciens et de modernes? À chaque fois qu'il y a eu, disons, quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est une rupture, et automatiquement, ça crée querelle. Mais un certain temps après, ça devient quelque chose de classique. Je pense tout d'un coup à quelque chose qui est la peinture impressionniste. Quand il y a eu les premières peintures impressionnistes, ça a été un tollé général. Aujourd'hui, c'est devenu plus que classique. Même quelquefois, on dirait ringard, dans certains cas. Donc, en fait, c'est, comme vous le disiez, quelque chose de permanent et qui permet la confrontation.
D'ailleurs, au XVIIe, où on a vraiment parlé de querelle des anciens et des modernes, avec par exemple un auteur comme Perrault, hein, qui d'ailleurs a fait la fameuse colonnade du Louvre, qui est quelque chose considéré comme étant l'architecture classique. D'ailleurs, l'architecture est intéressante comme la peinture parce qu'on voit bien déjà au XVIIe les problèmes qu'on a à essayer de définir ce qui est classique ou ce qui ne l'est pas. Est-ce que nous on appelle classique aujourd'hui, il n'était pas forcément à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de querelle des anciens et des modernes, je parlerai d'un sens, pour moi, comment dire, incongru de la modernité, qui en fait fait tabula rasa de tout ce qui s'est passé avant. Et le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce lien qui a été entretenu jusqu'au XVIIe. Pourquoi je dis jusqu'au XVIIe? Parce que ça se gâte avec la philosophie des Lumières au XVIIIe. Ici, je sais qu'en France, on a l'habitude de tresser des couronnes à la philosophie des Lumières, qu'on connaît d'ailleurs très mal. C'est d'ailleurs à l'origine un terme allemand. Et si jamais il y a un philosophe des Lumières, il n'y en a qu'un, c'est Rousseau. Les autres, Voltaire, c'est un bon journaliste, mais rien de plus. Le lien est rompu depuis déjà un bon moment. Et aujourd'hui, on n'a plus ce lien. Et donc, comme on n'a plus ce lien, on pense qu'on peut se dispenser de s'inscrire dans cette filiation, confrontation, parce que c'est vraiment ça le rapport à l'Antiquité. Et ça se voit beaucoup dans l'art contemporain, où les gens apprennent même pas leur métier. C'est-à-dire l'art, vous parlez puisque vous avez lancé la piste de l'art, l'art c'est avant tout d'abord la maîtrise d'un métier. Parce que sans le métier, on ne peut pas s'exprimer correctement. Et c'est exactement la même chose avec le rapport avec le latin et le grec. C'est notre socle. D'abord, c'est ce qui a fabriqué notre langue. Et sans cette maîtrise de la langue qu'on peut particulièrement développer avec le latin et le grec, on n'est pas capable de créer vraiment de la langue qui fasse sens et qui soit de qualité. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on peut apprendre cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur le monde, ce rapport différent au monde, parce que pour ce qui concerne le rapport au grec, je suis beaucoup plus du côté de Florence Dupont que de Jacqueline de Romilly, même si j'ai adoré lire Jacqueline de Romilly, qui m'a enchanté. Mais les Grecs sont des gens, la notion que développe Florence Dupont, c'est que les Grecs sont des gens très différents de nous, ce qui est vrai. Mais en même temps, c'est eux qui nous ont fabriqués d'une certaine façon. Et donc aujourd'hui, on pense qu'on peut se dispenser d'apprendre, de se couler dans ce qui a si bien réussi au siècle qui nous ont précédés, et qu'on peut, à partir, enfin quasiment ex nihilo, se permettre de réinventer la roue.
Alors moi, je voudrais vous demander des exemples, parce que quand vous dites « on pense », pour l'art par exemple, est-ce que vous pourriez nous expliquer?
C'est quasiment sans beaucoup d'exceptions, malheureusement. C'est quasiment le cas de ce que les gens appellent l'art contemporain aujourd'hui, qui est en général une foutaise plutôt financière. Mais je veux bien faire le crédit que quelques artistes qu'on appelle des artistes contemporains soient sincères. Mais c'est des gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas appris ce qu'on... Par exemple, Manet, puisque vous parlez des impressionnistes. Alors Manet n'est pas un impressionniste, ne nous trompons pas. C'est le dernier des peintres avec un métier classique. Quand vous voyez Olympia, par exemple, vous voyez bien que c'est un peintre qui a un métier classique. En même temps, c'est vraiment l'un des premiers peintres modernes, d'autant plus que justement Manet, mais c'est bien ce côté filiation, culture vivante, Manet se voulait le peintre de la vie moderne. Il l'a beaucoup dit, donc c'est pas une idée qu'on plaque sur lui. Manet, quand on regarde ce qu'il faisait à 20 ans dans l'atelier de couture, il faisait des académies, il a appris son métier, ce qui lui a permis après de s'émanciper. Quand il fait par exemple ce merveilleux portrait de Bertrand Morisot, c'est absolument pas de la peinture classique entre guillemets. Il a épuré, il y a une sorte d'ascèse qui permet une expression absolument extraordinaire. Bon, idem pour Degas. Quand on regarde les académies, ce qu'on appelait des académies à ce moment-là, c'est-à-dire soit d'après l'antique, soit d'après des modèles vivants qui posaient, moi j'ai été ébloui de découvrir les académies que Degas dessinait à 20 ans.
Mais c'est le cas aussi pour Picasso, par exemple, qui aussi, finalement, au début, il était aussi académique. Et puis, petit à petit, il a changé. Période bleue, période rose.
Oui, il n'a jamais
été... Il a créé un style.
Oui, enfin, il n'a jamais vraiment été académique, Picasso. C'est un cas... Il y a comme ça, dans l'histoire de l'art, de temps en temps, des espèces de météores... Bon, ça me fait penser à Michel Tournier pour d'autres raisons, mais pour qui j'ai une pensée émue, évidemment. C'est des ovnis qui arrivent régulièrement comme ça dans le paysage artistique. Donc, c'est un peu compliqué de parler de Picasso, mais bien sûr qu'il avait un métier. Dans le cas de Picasso, c'est plus carrément cette espèce de génie, on ne sait pas très bien ce que c'est. Ça a été le sujet d'une pièce formidable, complètement trahie par cet imbécile de Forman, Amadeus. C'est le sujet, qu'est-ce que le génie? C'est cette espèce de chose qui arrive d'on ne sait pas où, qu'on n'arrive pas à comprendre. Des gens qui ont des facilités exceptionnelles, qui à la limite ont à peine besoin d'apprendre, ils l'ont quand même le besoin d'apprendre aussi, hein. Mais c'est d'une telle facilité que voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors Picasso est dans ce cas-là, donc je m'écarterai un petit peu de Picasso parce qu'il pose beaucoup plus de problèmes que de réponses. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, quand on voit l'enseignement dans les écoles des beaux-arts, il y a de quoi être atterré, quoi. Il y a des professeurs qui disent carrément qu'il ne faut pas apprendre à dessiner. Alors comment peut-on s'exprimer dans le cas... Vous voyez, on ne dit même plus peinture, on dit art plastique. Voilà, hein, le plastique. Hein. Comment voulez-vous qu'on puisse s'exprimer quand on ne sait pas maîtriser son trait? en dessin, par exemple. Voilà, donc c'est tout le problème est là.
Alors, ça veut dire qu'en fait, vous nous dites que finalement, on ne peut pas s'affranchir de racines dans le domaine, effectivement, du savoir, de la connaissance, et que ces racines, elles ont matière à baliser un champ d'articulation entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui a été fait hier dans une chaîne humaine.
Oui, c'est très juste ce que vous dites, je le crois profondément. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que par exemple, prenons la culture du 17e, pour laquelle j'ai un penchant, un tropisme certain. Vous voyez à quel point ça a nourri les auteurs du 17e. Tout le théâtre grec a nourri Racine, Corneille et d'autres, Kino, qui a écrit beaucoup, des livrets d'opéra notamment, qui ont été mis en musique par Lully. Dans la peinture, c'est pareil. On parle même, au 17e, d'un courant atticiste dans la peinture française, qui est une référence absolument directe à l'attique, hein, donc par opposition à l'asianisme, puisque ce débat traversait la culture grecque jusqu'au 17e, c'est-à-dire d'un côté une forme d'épure et de culture classique au sens des canons, à ce moment-là du canon, qui est un terme grec, hein, qui veut dire la règle. Et puis le goût d'Asie mineure, l'asianisme, donc plus développé, plus recherché, moins pur par conséquent. Donc au 17e, on a une école de peinture qu'on appelle l'atticisme, à laquelle d'ailleurs on peut rattacher Poussin, pour citer un peintre, pour que ça dise quelque chose à nos auditeurs. Hein.
Ok. Alors du coup, on peut se poser la question, est-ce que cette culture ne crée pas en soi une élite et derrière cette question, il y a quelle utilité à cette culture pour la société et plus spécialement, si on voulait être plus précis, pour l'homme du peuple.
Alors moi, je dirais qu'effectivement, cela crée une élite, mais en fait, si on veut reprendre l'histoire de l'éducation, bon, je ne vais pas remonter jusqu'à Aristote, mais disons, montons simplement à Napoléon au lycée. Eh bien, l'idée, c'était effectivement de créer une élite, parce qu'on avait besoin d'une élite, une élite de fonctionnaires, et de créer cette élite. Et après, avec l'école de Jules Ferry, on avait besoin à ce moment-là de gens qui sachent écrire, lire, etc., pour l'industrie, et il fallait à ce moment-là absolument, effectivement, avoir des gens qui pouvaient réfléchir. Et donc on crée une élite d'une certaine façon, mais l'idée c'est que cette élite elle devienne de plus en plus importante. Après, on pourra reparler de ce problème à travers par exemple Bourdieu et ce qu'il a pu en dire sur la
les dégâts qu'il a causés surtout.
Voilà.
Moi, une des principales raisons pour laquelle j'aime pas les socialistes et que je serai jamais avec eux, c'est que le mot élite ne me fait pas peur, bien au contraire. Hein. Maintenant, on est une sorte de Pol Pot de la culture qui est incarnée par cette personne qui dirige l'éducation, qui elle-même manque de la plus totale éducation. Donc, il faut couper les têtes qui dépassent. Hein. Parce que comme on n'est pas capable de faire lever le peuple vers le haut, alors on a décidé au contraire de faire descendre le haut vers le bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on supprime le latin et le grec à l'école. Donc il faut couper les têtes. Or moi je suis pour l'élite. Simplement, je ne suis pas pour l'élite au sens d'une confiscation par la bourgeoisie des postes de responsabilité. Je suis pour qu'on fasse monter le plus possible les gens vers un meilleur, vers un plus. Alors dans ce sens, je suis pour l'élite.
Blanche-Marie, alors peut-être sur ce point, est-ce qu'on n'a pas toujours connu dans l'histoire, c'est ce que vous sembliez dire ou ce que j'ai cru comprendre dans ce que vous disiez, des moments de rupture et en même temps des moments de continuité? Est-ce que vous pensez que c'est en quelque sorte l'éternel retour d'un oubli, l'éternel retour de retrouvailles? Ou bien est-ce que vous pensez, comme Philippe là vient de l'exprimer, qu'on est dans un moment aujourd'hui très particulier où l'oubli est majeur et ça serait la première fois dans notre histoire occidentale?
Oui, alors là, d'abord, je vais revenir sur quand même Najat Vallaud-Belkacem. Là, je ne suis pas du tout d'accord parce que elle, c'est un pur produit précisément de l'éducation. Elle a été élevée dans un quartier nord d'Amiens, dans un collège d'un quartier nord. Elle est allée au lycée. Après, elle a intégré Sciences Po. Bon, on ne peut pas dire qu'elle manque complètement de culture. Elle a eu une culture classique qu'elle a reçue au lycée. Bon. Deuxièmement, là où je ne suis pas d'accord non plus, mais on reviendra là-dessus, c'est au sujet du programme, des nouveaux programmes des collèges. Mais ça, on pourra revenir là-dessus. Alors maintenant, pour répondre à la question des moments de rupture, bien sûr qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Et il faut quand même aussi intégrer dans notre... Alors, moi, je défends là aussi la culture classique. Et je dis aussi, et je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une élite. Enfin, ça, c'est un petit peu à réfléchir. Parce que la nouvelle élite, ce n'est pas forcément non plus les gens qui ont une culture classique. C'est aussi ceux qui ont fait leur MBA à Harvard ou ailleurs et qui parlent, comme dirait quelqu'un, un franglais pékinois. Et auxquels on ne comprend rien. Et ils ont aussi une culture qui n'est pas la nôtre, mais qui est une culture. Hein. Mais donc des ruptures, il y en a eu quand même régulièrement. C'est normal. Avec des apports à chaque fois de groupes qui viennent de l'extérieur. Pourquoi pas ?
Alors, on ne va pas faire une polémique sur cette personne, mais quand même, non, c'est pas là. Il n'y a pas du tout de culture. D'abord parce que depuis... malheureusement, les socialistes ne sont pas seuls responsables, la droite l'est aussi. Il y a un effondrement total de l'éducation, et notamment dans l'enseignement supérieur, depuis 68. C'est 68 qui a initié ça. Et donc, ces gens-là, oui, ils ont appris, comme des petits chiens savants, un certain nombre de choses, mais ça n'a rien à voir avec la culture. D'ailleurs, on voit bien, dans la nouvelle classe politique, celle qui maintenant nous dirige, ce sont de parfaits barbares, totalement incultes. Et vous avez des gens qui sortent de Sciences Po ou de l'ENA qui sont totalement incultes, ce qui pose quand même de drôles de questions, entre parenthèses, sur notre système éducatif, qui sont totalement coupés de ce que moi j'appelle la culture. Ils connaissent rien à rien, rien à rien. Donc je ne peux pas vous laisser dire... Enfin, si, vous pouvez le dire, c'est votre liberté, mais je ne peux pas entendre ça, c'est pas possible.
Sur Radio Grand Ciel dans l'émission Libre Échange et on reçoit aujourd'hui Philippe Frétinier et Blanche-Marie Gaillard. Donc on l'a bien compris, n'est pas cultivé qui veut. Mais pour autant, cette culture-là passe par un certain nombre de jalons et de repères et donc l'éducation en est précisément un non négligeable. Blanche-Marie, est-ce que vous avez des choses plus précises à nous dire sur cette interface culture-éducation.
N'est pas cultivé qui veut. À partir du moment où on va à l'école et où le système éducatif vous permet un certain accès à la culture, y compris classique, peut-être qu'on peut être cultivé. Après, effectivement, Il y a un gros problème dans le domaine de l'éducation actuellement, mais en même temps, il y a quand même un certain nombre d'expériences qui peuvent laisser de l'espoir.
À quoi pensez-vous quand vous parlez d'expérience ? Parce que tout à l'heure, l'un comme l'autre, vous avez beaucoup insisté sur cette question de la transmission, sur qui était à la fois filiation et confrontation, donc à la fois connaissance, savoir et en même temps émancipation par rapport à savoir qu'on détient. Vous avez tous les deux parlé de ça. Est-ce que vous avez des exemples précis sur l'espoir qu'on peut avoir, justement ?
Oui, moi je pense à une expérience justement qui a eu lieu au moment du problème de la princesse de Clèves. Un certain homme politique avait fait en sorte que finalement tout le monde se précipite sur la lecture de la princesse de Clèves. Et à Marseille, dans un quartier nord, vraiment, où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, la princesse de Clèves a été non seulement étudiée, mais les élèves se sont appropriés le livre. Et il en est sorti même un film qui s'intitule « Nous, princesse de Clèves ». Et ce groupe d'élèves est parti à Paris, a visité le Louvre, est allé à la Bibliothèque nationale. Et donc, là, je dis qu'il peut y avoir de l'espoir.
Sur la princesse de Clèves, effectivement, on peut se demander si la sortie n'avait pas eu quelques vertus pédagogiques, dans la mesure où c'est un livre qui, tout d'un coup, a été beaucoup plus lu.
Mais j'aimerais bien partager votre espoir. Là où je vous rejoins, et c'est bien tous les problèmes d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de raison de supposer a priori que les générations qui arrivent derrière nous seraient moins capables d'accéder à la culture, qui seraient moins intelligents que nous. Voilà, le problème n'est pas là, c'est que malheureusement, il y a une faillite total des familles, y compris dans les milieux soi-disant privilégiés. L'analyse de Bourdieu, par exemple, dans la distinction, est très périmée. Il y a un affaissement à tous les niveaux, aussi bien dans les familles que dans l'éducation. Et donc, malheureusement, très souvent, les générations qui suivent n'ont pas l'accès à cette culture, parce qu'il n'y a pas de passeurs qui ont fait le travail. C'est ça le problème de base. Et pourtant, quand on voit toute l'histoire, tout ce patrimoine gréco-latin, justement, a permis, c'est pour ça que je parlais de filiation, confrontation, a favorisé la création au fil des siècles. Toutes les époques de l'Antiquité jusqu'au XVIIe qui se sont référées à cette culture, en s'y opposant par confrontation, par filiation, ont été très créatrices. Voilà. J'ai un ami, homme de théâtre de grand talent, qui a écrit il n'y a pas longtemps un texte à partir de Prométhée d'Eschyle. Donc voilà, ça peut nourrir encore aujourd'hui la création.
Donc en fait, pour faire un petit clin d'œil, disons qu'il y a un virus qui serait intellectuellement transmissible et qui effectivement nécessiterait des médias. Pas au sens du média qu'on connaît actuellement, mais de médias pour se véhiculer.
Des messagers, en tout cas, oui.
Partagez-vous, Blanche-Marie, cet avis. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, quels seraient justement, dans ces cas-là, les obstacles éventuels à lever, si on les a repérés, et si oui, comment ?
Alors là, par exemple, je voudrais prendre un exemple, les grandes expositions qu'il y a actuellement. On a parlé de Poussin tout à l'heure. Mmh. Si on n'a pas les codes pour... parce qu'on va faire une grande exposition de Poussin, on va faire une publicité à la télévision, etc. Les gens vont venir en masse. Bon, il est évident que si les gens n'ont pas les codes et s'ils ne connaissent pas la mythologie, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut qu'il y ait une éducation au départ. Mmh. Alors comment est-ce qu'elle peut se faire ? Elle peut se faire d'une certaine façon à l'école, et pourquoi pas ? Parce que, en fait, les enseignants ont quand même une grande liberté, et donc, pourquoi pas, dans les classes, entre parenthèses, d'art plastique, moi je veux dire, d'art, mais elle peut se faire aussi par d'autres médias. Et la télévision, on peut en être un, Internet.
Alors, donc... vous évoquez beaucoup les questions de transmission, donc voilà quelques possibilités qui existent, qui ne sont pas forcément exploitées d'ailleurs, on pourrait le dire, mais est-ce que vous pouvez aller l'un et l'autre peut-être un tout petit peu plus loin, vous l'avez évoqué déjà, mais sur cette actualité de la culture, je ne vais pas dire classique, mais, ou alors on pourrait y revenir, mais en tout cas, cette culture, pour rester vraiment très classique, gréco-latine. C'est quoi son actualité ?
Moi, je pense que pour renouer les fils qui ont été rompus, on a la chance d'avoir eu des gens qui ont été de formidables passeurs. Par exemple, pourquoi ne pas faire lire, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être que certains professeurs le font, mais pourquoi ne pas faire lire, à défaut, moi je ne m'attends pas à ce que tous les jeunes lisent les vers d'Horace ou de Virgile dans le texte, quoi que ce soit, à mon avis, le seul moyen d'y avoir accès, puisque c'est d'une beauté tellement inouïe que ça ne peut pas être traduit. Mais enfin bon. Mais on a, par exemple, Marguerite Yourcenar, qui a été un merveilleux passeur, qui d'abord, déjà dans les mémoires d'Adrien, un de ses livres les plus célèbres, traduit tellement bien le climat de l'Antiquité romaine, avec tellement de finesse et de justesse. Et puis elle a traduit fort bien, avec le talent d'écrivain qu'on lui reconnaît à juste titre, elle a fait un ouvrage merveilleux qui s'appelle « La couronne et la lyre », qui sont des traductions de poésie grecque. Bon, mais ça, on peut le faire travailler à des adolescents, par exemple. Hein, voilà.
Je pense que ça se fait.
Ben j'espère.
Oui. Marguerite Yourcenar, ça a été au programme de.
Et de fil en aiguille, de fil en aiguille, parce que vous disiez la culture. Tout à l'heure, vous avez quelque chose. Est-ce qu'on peut. Il suffit, n'est pas cultivé qui veut. Mais bien sûr que si, et cultivé qui veut. Parce que. D'abord, il faut qu'il y ait cette envie. Et moi, c'est ça qui me désespère. Je vois ce manque de curiosité. Je vais raconter une petite anecdote qui me navre sur la jeunesse aujourd'hui. J'étais devant une boutique qui vendait des poupées, des jouets. Et sur le trottoir, c'était à Chartres, il y avait un espèce de petit présentoir avec des boîtes à musique. Et il y avait un jeune couple, au demeurant fort sympathique, je ne sais pas, 20, 25 ans, enfin bon, un petit couple mignon comme tout, d'amoureux. Et ils faisaient marcher les boîtes à musique. Bon, et puis je me suis mis à en faire jouer une. Et celle que j'ai jouée, comme par hasard, c'était les premières notes de l'Internationale. Et j'ai bien vu dans leur regard que ça leur disait rien. Ils n'ont même pas eu l'envie de me demander ce que c'était. C'est moi qui leur ai dit. J'ai dit, vous savez ce que c'est. Et puis bon, je leur ai raconté. Vous voyez, peu importe que ça soit l'Internationale ou autre chose. Mais la culture, c'est d'abord une question de curiosité. Et je pense qu'une des premières tâches de l'éducation, c'est d'éveiller cette curiosité. À partir de là, tout est possible. Donc, bien sûr que, par exemple, en faisant découvrir par le biais de Marguerite Yourcenar, je la cite elle parce que c'est un merveilleux exemple, mais vous savez, Michel Tournier se réclamait beaucoup de cette culture-là aussi. Hein. Tous n'auront pas envie d'aller plus loin, mais il y en a qui auront envie d'aller plus loin. C'est ça qui compte.
Là, je suis tout à fait d'accord. Ce qui compte, c'est d'éveiller effectivement la curiosité et la culture, surtout, c'est ce qui crée le lien. Oui. Et ce qui permet comprendre le passé, c'est absolument nécessaire pour pouvoir comprendre notre présent et pour en plus imaginer le futur. Donc, il faut qu'il y ait une transmission qui se fasse. Mais cette transmission, elle peut se faire, mais avec des moyens peut-être différents de ce qui se fait aujourd'hui, parce que quelquefois, les jeunes se ferment effectivement à la transmission. Donc il faudrait peut-être trouver d'autres chemins.
Mais n'est-elle pas tout simplement en opposition avec un pragmatisme dévorant qui aujourd'hui fait office de sainteté ?
Ah ben c'est sûr qu'on est. D'ailleurs, même là-dessus, c'est complètement inopérant dans la logique même de ceux qui promeuvent cette idée d'un pragmatisme à tout craint. On est dans l'utilitarisme. D'ailleurs, on le voit bien dans des tas de domaines. La gratuité, ça n'est plus le moteur. Il y a un bon exemple de ça, d'ailleurs, au grand désarroi de beaucoup des pionniers d'Internet. C'est comment Internet a été gangréné par les puissances de l'argent. Hier, on annonçait que la capitalisation boursière de Google, c'est le PIB de la Belgique. Quoi. Voilà. C'est l'opposé de ce que voulaient les pionniers d'Internet. Donc déjà, il y a un problème avec la gratuité. Mais là, si, ce n'est pas le problème des jeunes. Les problèmes concernant l'éducation de la jeunesse et leur absence de niveau la plupart du temps, pas toujours selon moi, c'est la faute de nous, des aînés. C'est pas leur faute à eux. Hein. C'est qu'il y a eu une faillite de la chaîne de transmission. Hein. Et donc, c'est vrai que maintenant, l'école, en gros, elle devrait former des gens pour l'entreprise. Quoi. Maintenant, le rôle de l'école, c'est pas de former des gens pour l'entreprise. C'est après la spécialisation. Mais l'école, c'est au contraire de faire des hommes dignes de ce nom, des hommes capables d'exercer leur jugement critique. Et pour ça, il faut un bagage.
Alors, il me vient une réaction spontanée à ce que vous venez de nous dire. C'est, est-ce que le politique, du coup, devient une langue morte aux oreilles du peuple ?
Bah, le problème du politique, c'est que d'abord, il est une langue morte chez les politiques. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des écuries d'ambition personnelle dont l'ultime fin est d'arriver au pouvoir pour rien en faire. L'exemple le plus catastrophique de ça, c'est Chirac, hein, qui n'a absolument rien fait pendant 12 ans, mais rien de rien. Voilà. Mais il avait le poste, il était content. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, le problème de la politique, c'est que les politiques ne font pas de politique. Ils n'en font plus, ils ne sont pas capables d'en faire. Pourquoi ne sont-ils pas capables d'en faire ? Parce qu'ils sont dans cette culture consumériste de l'ego narcissique. Et puis, parce que justement, ce sont des barbares. Sciences Po et l'ENA, ça ne forme pas des gens cultivés. Ça forme des techniciens qui, en plus, sont incompétents. Et c'est facile de dire pourquoi. Regardez la situation économique de la France qui est dirigée depuis 40 ans par des énarques. Nous sommes dans une situation catastrophique de faillite. Donc, c'est la preuve de leur incompétence.
Alors donc, Blanche-Marie, peut-être une réaction ?
Non, il me vient quand même à l'esprit que c'est quelque chose qui s'est assez bien partagé sur la planète tout entière.
Hélas.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire uniquement pour la France.
Non, mais je suis d'accord, hélas. Voilà. Je parle de ce que je connais le mieux parce que je suis plus prudent sur ce que je connais moins, mais bien sûr.
Et du coup, si on fait une analogie entre le pouvoir politique et le pouvoir culturel, on dirait... diriez-vous en tout cas que le pouvoir culturel est défaillant actuellement pour la raison qu'il y a une défaillance politique ?
Oui, encore une fois, le cœur de la chose, c'est quand même la vision du politique sur l'éducation. Et puis... on est dans un tel système maintenant. Alors, je ne suis pas du tout un inconditionnel d'Alain Finkielkraut, mais j'ai quand même comme point commun avec lui, c'est justement cette défense d'une culture. Alors, lui, ce n'est pas tant la culture classique au sens où moi je l'entends, mais je me reconnais aussi quand même dans sa vision de la culture. Et regardez comme on le traite de façon très facile. On peut lui faire des reproches, je lui en fais, hein, entendons-nous bien. Mais on le traite de réac parce qu'il parle d'une culture qui serait passée, qui serait morte. Voilà. Donc c'est très très difficile de reprendre la main dans ce domaine-là.
Alors moi, ce que je dirais, c'est le pouvoir économique qui a pris le dessus, en fait.
Oui,
parce que le politique est au service de l'économie. En fait, c'est le pouvoir économique qui a créé une nouvelle élite, d'une certaine façon. C'est une élite,
pseudo-élite,
que je disais tout à l'heure, ou pseudo-élite peut-être. Enfin, c'est quand même une élite. Ce sont des gens qui sont entre eux, qui ont
une force de domination.
Un langage entre eux et qui exercent une domination. Ceci dit, la culture classique, c'était aussi une domination. On a, par exemple, quand nous, tout à l'heure, je disais au début de cette émission, on parlait de la culture gréco-latine dominante. Bon, quand on est allé vers les Amériques, on a imposé cette culture gréco-latine. C'est quand même, à chaque fois, c'est quelque chose que l'on impose. La culture dominante, c'est celle qu'on impose, même quand elle, qu'elle soit classique ou pas. Hein? Donc pour le moment, c'est la culture peut-être des gens qui sont allés à Harvard ou ailleurs. Voilà. À un moment, c'était la culture classique. C'était quand même quelque chose qu'on imposait. Et qu'on a essayé d'imposer aussi dans les colonies, par exemple. Ça n'a pas toujours marché. Ils avaient leur culture. Les gens en Afrique ou ailleurs avaient leur culture.
Enfin, je comprends bien ce que vous essayez de dire. Et je ne suis pas en opposition totale à ce que vous venez de dire. Néanmoins, c'est plus compliqué que ça parce que... la culture gréco et classique porte en elle-même les vecteurs de la libération de chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, le plus magnifique exemple de ça, c'est Montaigne. Et la langue maternelle de Montaigne, si j'ose dire, mais c'est vrai, c'est le latin. Voilà. C'est-à-dire que cette culture qui est justement une culture de, à la fois de la raison et de la poésie. C'est ce qu'on trouve merveilleusement chez Virgile. Cette culture de la raison et de la poésie fait que ça éveille à la liberté. C'est-à-dire que même si on s'est fait imposer cette culture, elle nous fournit les moyens de nous en affranchir. Il faut voir la liberté qu'il y a eu dans la création littéraire, artistique, parfois même politique, puisque nous sommes les descendants de la démocratie grecque, on est encore une fois des gens très différents des Grecs, a permis de se libérer, de créer d'autres choses, des choses différentes, mais avec ce viatique.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel en compagnie de Blanche-Marie Gaillard et de Philippe Frétinier dans l'émission Libres Échanges. Alors, question à l'un comme à l'autre. Là, on voit bien à quel point le fait culturel est une question politique, de politique au sens très large, pas nécessairement de politique partisane. Et puis, on voit aussi, dans tout ce que vous dites, que la focale, vous la faites porter essentiellement sur les arts. Les arts et la pensée, mais surtout les arts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer justement que dans un monde utilitariste, je reprends vos propos à l'un et à l'autre, dans ce monde utilitariste, dans ce monde où le pouvoir est aux mains de l'économie, est-ce que l'art peut avoir une place et pourquoi pas une utilité ? Blanche-Marie, peut-être.
Il me vient tout d'un coup à l'esprit quelque chose à propos de l'art. Enfin, peut-être certains d'entre vous ont vu le film Mia Madre, il n'y a pas longtemps, là. Et dans le film Mia Madre, c'est de l'art, hein, c'est du cinéma. Et la vieille dame qui va mourir, au moment où elle, un petit peu avant, elle essaie de convaincre sa petite fille de connaître l'analyse logique et de connaître les latins. Et en fait, à la fin de ce film, on se rend compte que la culture classique, telle qu'elle l'a eue, elle, c'était un professeur de latin, cette dame, eh bien, ça sert de transmission dans la famille. C'est un lien dans la famille. Et donc, l'art, oui, l'art, c'est vraiment quelque chose qui peut être un lien. Et alors, comment maintenant y amener le plus grand nombre, ça, c'est le problème.
Oui, alors c'est vrai que là, les exemples qui nous sont venus spontanément, souvent, sont des références à l'art, mais on pourrait en dire autant de la science et autant du politique. La politique occidentale, elle est inventée par les Grecs. La science occidentale, elle est inventée par les Grecs. C'est très simple à comprendre pourquoi. C'est que ce sont les Grecs qui ont introduit avec presque une sorte de sacralisation la raison. Et c'est ça qui permet à la science de se construire. Et la science moderne, celle à partir du 17e, l'invention de la science moderne avec Galilée, avec tout le grand courant de la science en Europe, aussi bien en Italie qu'en France... qu'en Angleterre, Harvey a découvert la circulation sanguine à Padoue, mais c'était un Anglais. C'est pas seulement l'art, c'est tous les domaines. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que justement, ces systèmes de langue très différents dans le cas du grec et du latin, il y a une importance extraordinaire de la morphologie en grec, c'est le cas est un peu différent en latin. Mais c'est que c'est un excellent système par la mécanique de ces langues de formation intellectuelle. Alors vous me direz, on pourrait le faire avec le sanskrit. Mais pourquoi ne pas le faire d'abord avec ce qui a été notre matrice ?
Bien sûr.
J'ai rien contre le sanskrit, pourquoi pas ? Mais par surcroît, puisqu'on a un lien moins direct, quoiqu'au niveau linguistique on pourrait en discuter, mais culturellement, notre matrice c'est la Grèce et c'est Rome. Et c'est très formateur dans le développement intellectuel d'apprendre ces langues, sans compter qu'on accède à des sources de beauté inouïes. Donc autant le faire du côté de ce qui est notre origine, voilà.
Oui, en même temps, il ne faut pas négliger non plus les apports qui peuvent venir de l'extérieur aujourd'hui, où on a quand même beaucoup de populations qui arrivent chez nous, où on voyage énormément, et on a des changements culturels. Par exemple, moi, quand je vais à l'étranger, je vais souvent dans les cimetières parce que je trouve que la façon dont on traite ces morts montre un peu la façon dont on traite les vivants. Et maintenant, en France, de plus en plus, il y a de la crémation. Ben, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et donc, comment est-ce que ça nous est venu ? Vraisemblablement par la mondialisation, par les voyages, je ne sais pas exactement. Hein. Et donc, les changements peuvent avoir lieu. C'est-à-dire, la culture classique, oui, mais avec éventuellement des apports constants de ce qui peut venir de l'extérieur.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Le meilleur exemple de ça, c'est le Moyen-Âge. Et à Chartres, on est bien placé pour le savoir. L'une des révélations importantes du XIIe siècle, c'est entre autres la découverte d'Averroès. Et pourquoi c'est important ? Parce que, d'ailleurs, on l'a surnommé le commentateur. Parce qu'Averroès a été le passeur d'un élément de la philosophie grecque très important, en l'occurrence Aristote, qu'on considérait comme particulièrement difficile ici. Et donc, on s'est mis à lire les textes du commentateur qui permettaient d'avoir l'accès à Aristote. Et donc, ce grand courant qui s'illustre dans la pierre à la cathédrale de Chartres, au porche de droite de la façade principale, où on voit toutes les figures importantes de l'Antiquité, il y a eu un renouvellement du rapport à la culture par le biais du monde arabe. Bon, ça, je prends cet exemple-là. Mmh. À la Renaissance, on pourrait aussi développer et mettre plein de codicilles. Donc, bien sûr. Et quand je fais référence à la culture classique, je n'ai pas, pour prendre des termes bergsoniens, j'aime beaucoup Bergson, je parle de culture ouverte et non pas de culture fermée, hein, de culture ouverte et non pas de culture close, pour prendre la terminologie de Bergson. Hein.
Alors moi, je voudrais qu'on termine cette émission avec une réflexion de votre part à tous les deux sur le fait suivant. Comme vous le disiez, Blanche-Marie, nous sommes dans une société pluriculturelle. Et aujourd'hui, l'interface entre les cultures est loin d'être évidente. Alors, si effectivement la culture classique avait un rôle à jouer par rapport à cette harmonisation du vivre ensemble, quel serait-il ?
Ben déjà, la culture classique, ça permet, comme on l'a dit, la confrontation, déjà. Hein, le fait de... Ça permet de réfléchir, ça permet de se confronter, et donc, pourquoi pas avec les... Et de faciliter, pourquoi pas, l'arrivée d'autres cultures. Sans pour autant, alors évidemment, on ne va pas se mettre à étudier le sanskrit, hein, mais des éléments des cultures indiennes ou chinoises, pourquoi pas.
Alors, votre question, moi, me renvoie évidemment à la difficulté de définir ce que c'est que la culture. Parce que ce que je crois aujourd'hui dans le brassage qui a lieu, d'abord, nous avons des populations qui arrivent, notamment du Mashrek, hein, du Maghreb, qui, déjà dans leur pays d'origine, souvent étaient des déclassés culturellement. Ça, il faut quand même le dire. Et puis... il y a un brassage des modes de vie. Alors évidemment, après, on peut dire, est-ce que les modes de vie, c'est la culture ? Pour moi, non, c'est pas ça. Mais la culture... Donc, il y a un brassage des modes de vie. Le multiculturalisme, ce terme que m'indispose beaucoup, personnellement. Parce que justement, il n'y a pas un brassage des cultures. La culture antique, avec justement les personnes venant du Mashrek et du Maghreb... Ça serait le merveilleux lien, parce que est-ce que vous savez que, par exemple, au 5e siècle, dans le monde arabe, on disait, jusqu'à la merveilleuse épopée arabo-andalouse, il se disait plus grec que les Grecs. C'est l'image des vitraux à la cathédrale de Chartres, au porche sud. Hein, vous avez les évangélistes sur les quatre évangélistes assis sur les quatre grands prophètes. Et suivant la phrase de Saint Bernard, nous voyons plus loin parce que nous sommes juchés sur les épaules des anciens. Et le monde arabe du 7e siècle, pour prendre l'expansion de l'islam jusqu'à l'épopée arabo-andalouse, ils avaient exactement cette vision-là. Donc ils disaient, on est plus grec que les Grecs parce qu'on a pris la culture grecque et on l'a portée plus loin. Donc c'est aussi leur culture. Donc ça serait un excellent lien parce que nous avons des choses communes. Et ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise.
Alors, ça nous amène à parler effectivement d'actualité. Ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Encore faut-il, effectivement, que ces passions contemporaines, aujourd'hui, puissent retourner à leurs origines, de manière, effectivement, peut-être à pouvoir partager. Est-ce que la condition d'échange entre les cultures, donc la condition d'une société qui serait pluriculturelle et brassée, est-ce que ça n'est pas que effectivement chacun détienne quelque chose de sa propre origine en bonne part ? Oui. Je sais pas, l'un ou l'autre, Blanche-Marie, est-ce que partager cet avis ?
Oui, quand par exemple, le terme déclassé culturellement, il ne peut pas être généralisé. Parce qu'actuellement, par exemple, quand on voit les réfugiés arrivant de Syrie, ils sont, moi j'en connais un, il était professeur de linguistique arabe à l'université.
Oui, mais je parlais plutôt des populations du Maghreb depuis 30 ans.
Hein. Et donc on ne peut pas vraiment dire ça. Mais on peut, chacun peut. Ce qu'il faut surtout, c'est que finalement, il n'y ait pas acculturation. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que quelquefois, les populations venant de l'extérieur qui ont une culture, y compris les gens qui viennent de leur village du fin fond de l'Afrique noire, ils pouvaient avoir une culture. Et puis après, ils ont été acculturés ici, chez nous. Hein. Enfin, je ne sais pas si on dit ce terme-là, mais ils ont perdu cette culture. Et ça, c'est embêtant parce que, en fait, on peut à la fois s'approprier par l'école la culture classique, mais c'est important aussi de garder des éléments de sa propre culture.
Oui, oui, non, sinon, je suis d'accord avec ça, mais l'acculturation, dans l'acception vraie des termes, hein, ce n'est pas du tout la disparition d'une culture, c'est l'appropriation d'une culture, hein, par une espèce d'osmose. Hein. Donc, moi, je trouve que justement, puisqu'il y a des classes où il y a des élèves qui viennent d'ailleurs, quand même beaucoup du Maghreb, je ne fais pas de fixation, mais c'est une population importante en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, par exemple les Turcs en Allemagne, leur faire découvrir leur culture de là d'où ils viennent quand ils ne la connaissent pas. Et c'est aussi découvrir là d'où nous venons. Et donc, si on leur fait découvrir là d'où ils viennent, on va aussi pouvoir leur passer ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est vraiment, encore une fois, c'est ce qui nous rassemble. Parce qu'il n'y a pas de frontières. Pendant jusqu'au XVIIe, il n'y a pas eu de frontières entre ces cultures. Au contraire, il y a eu des rapports constants. La cour de Louis XIV a été émerveillée parce qu'elle a appris de la cour de Soliman le Magnifique. Voilà.
Eh bien, écoutez, je crois qu'il nous reste à remercier nos deux invités pour ces échanges assez riches et culturellement très intéressants. J'espère qu'ils vous auront, vous aussi, intéressés. Et Olivier et moi, nous vous remercions pour votre attention et pour votre fidélité.
Merci, à bientôt.
À bientôt.